avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ? Toutes
offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Ah, oui ou non, interdire le burkini, ce maillot
connerie pour cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais. Tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir. Nous sommes le vendredi 15 ou 16 mars, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est le Canu Info qui commence sur les ondes de Radio Canu. Et ce soir, Canu Info intimiste, Canu Info rapide, mais Canu Info puissant. Nous allons vous parler de quoi ? D'abord, je ne sais pas pourquoi j'ai dit puissant, pardon. Canu Info chouette. Nous allons parler d'abord du coup de la journée de lutte contre les violences policières. Et ensuite ?
Ensuite, on vous passera un reportage sur la mobilisation des avocats-avocates contre les visio-audiences.
Et ensuite, on écoutera un magnifique reportage produit par Radio Parleur qui parle de... Monique Pinson Charlot.
C'est un petit bout de Monique Pinson. Ah, mon micro est pas ouvert. Oh là là.
Ça doit être Monique Pinson-Charlot qui va jusqu'à parler des gilets jaunes. C'est ça qu'elle fait. Oui, mais vendredi soir n'est pas toujours vendredi heureux. Mais on va aussi parler de... De quoi on va parler ?
C'est vrai que le micro est très faible là. Du gaz de schiste.
Et oui.
Vu que la France ne peut pas l'exploiter, elle va l'importer.
Et comme d'hab, on va finir par un agenda des plus efficaces et même peut-être un petit ACAB.
Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Info.
La police qui vit, la police assassine, qu'est-ce que des drogues, nous sommes diabétiques, la police mutile.
Violence policière.
Et alors, on va d'abord vous lire un appel du coup qui aura pour une manifestation qui aura lieu demain et qui est une journée de lutte contre les violences policières. Et donc cet appel appelle à une manifestation le 16 mars à Lyon. Pourquoi ? Parce que les combats contre les violences policières, contre les injustices sociales, contre le racisme et tellement d'autres causes font des quartiers populaires des gilets jaunes malgré eux et elles. Dans ce contexte, des collectifs et des familles de victimes de crimes policiers se battent pour obtenir justice et pour que la vérité éclate sur les circonstances de la mort de leurs proches entre les mains de la police. Alors, luttons ensemble contre les violences policières, contre le racisme et pour une vraie justice sociale.
Et donc, il y aura une manifestation à 13h, donc au départ de Place Guichard, donc dans le 3e, avec une arrivée prévue plutôt à 14h, Place Bellecour, pour rejoindre du coup la manif qui sera la manif des Gilets jaunes.
Dans les mémoires collectives de nos quartiers populaires lyonnais est inscrite une longue histoire de lutte pour la justice sociale. Depuis les révoltes populaires des années 80 aux Minguettes à Vénissieux, qui ont conduit à la marche pour l'égalité et contre le racisme, initiée après un climat d'extrême violence policière, le combat légitime de certaines populations n'a jamais cessé.
Les combats contre les violences policières, contre les injustices sociales, contre le racisme et tellement d'autres causes font des quartiers populaires des gilets jaunes malgré eux. Dans ce contexte, des collectifs et des familles de victimes de crimes policiers se battent pour obtenir justice et pour que la vérité éclate sur les circonstances de la mort de leurs proches entre les mains de la police.
En banlieue, ce sont 15 morts par an, des centaines de mutilés humiliés au quotidien et comme réponse obtenue, il n'y a que la criminalisation des membres des familles des victimes, une falsification des preuves, des fausses expertises quand les familles réclament justice, les procès où les blessés et les morts deviennent coupables. Cette violence quotidienne réservée aux banlieues dans un traitement raciste de ces populations s'étend à toutes ceux et celles qui voudraient exprimer leur droit de vivre dignement.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ce sont plus de 6000 gardes à vue, des centaines de comparutions immédiates et autant de peines de prison, 195 blessures à la tête dont 21 éborgnées, 5 mains arrachées, décès de Zineb Redouane, 80 ans, atteinte par une grenade lacrymogène au visage alors qu'elle fermait simplement ses volets.
Avec la médiatisation de toutes ces violences policières, plus personne ne peut ignorer le comportement de la police et l'impunité dont elle bénéficie à chacune de ses exactions. Pour toutes ces raisons, à Lyon comme à Paris, nous devons faire exister cette journée internationale contre les violences policières pour
dire que nous n'oublions pas les blessés et les mortes.
Demander la vérité et justice pour toutes les victimes de violences policières et du système des frontières.
Se battre pour l'interdiction de la clé d'étranglement, du pillage et du plaquage ventral, technique d'immobilisation mortelle utilisée par la police et des contrôles aux faciès, le retrait des LBD, des flashballs de tous les types de grenades et du pistolet à impulsion électrique.
Mais nous devons aussi dénoncer les médias et la justice qui salissent la mémoire des victimes.
Dénoncer l'impunité judiciaire dont bénéficient les forces de l'ordre.
Alors luttons ensemble contre les violences policières, contre le racisme et pour une vraie justice sociale. Donc on le rappelle, la manif partira à 13h au départ de la place Guichard à Lyon.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme. Et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et donc maintenant, on va aller jusqu'à écouter un reportage qui a été fait, je crois, mais je ne suis pas complètement sûr non plus, devant le tribunal de grande instance de Lyon suite à un rassemblement des avocats et des avocates contre la mise en place des visio-audiences.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, nous subissons actuellement quelques avaries techniques. On vous laisse avec un petit peu de musique en attendant de rétablir les problèmes. sur Radio Canu et on n'arrive pas à remettre la main sur notre fichier vérolé qui parle de la visioconférence et de la lutte des avocats. Et en attendant de régler ce problème, on vous laisse avec Monique Pinson-Charlot, qui est une sociologue et qui parle du mouvement des Gilets jaunes. Bonne écoute.
Nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.
Monique Pinson-Charlot, vous êtes sociologue. Vous travaillez de façon générale sur les élites sociales, la haute bourgeoisie et les dominants. Vous venez de sortir un livre intitulé « Le président des ultra-riches » qui raconte et décrypte la politique de Macron et en dénonce les abus. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir quel est un peu votre travail d'enquête pour ce livre et pourquoi vous êtes basé en majorité sur des articles journalistiques.
En réalité, nous nous sommes basés sur 30 ans de travail de recherche ethnologique, anthropologique, sociologique, économique, qui relève aussi de la science politique. Concernant, nous on n'emploie pas le terme d'élite parce qu'on trouve que c'est un terme qui est un peu trop flatteur. Donc on parle plutôt de dominants, de capitalistes, voilà, d'une classe sociale, d'une caste qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et donc chacun de nos livres, au fond, éclaire un aspect ou l'autre de cette oligarchie. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, du fait que nous sommes à la retraite, que les milieux de la grande bourgeoisie nous sont fermés, parce qu'ils n'apprécient pas, ils sont tout à fait d'accord sur le constat que nous avons fait par rapport au fonctionnement de leur classe. Ça, il n'y a vraiment eu aucun problème, on avait pas mal de légitimité, là, et c'est pourquoi nous étions invités et que nous pouvions continuer à faire ce travail. Mais à partir du moment où nous avons intégré le champ économique et le champ politique après notre retraite du CNRS et sans devoir de réserve, à ce moment-là, les portes se sont fermées. Et c'est vrai que nos méthodes ont changé. C'est-à-dire que tout livre nouveau s'appuie évidemment sur tout ce que nous avons acquis et qui est unique et très précieux, et s'enrichit avec alors des documents parus dans la presse d'investigation et même toutes formes de presse. On n'est pas sectaire de ce point de vue, et surtout on travaille beaucoup avec des lanceurs d'alerte et des salariés qui viennent nous parler sous anonymat. Ça, beaucoup. Alors c'est différent du journaliste d'investigation, parce que nous, c'est pas le scoop que nous recherchons, c'est nous cherchons à conforter nos analyses avec des sources anonymes qui vont sans crainte nous dévoiler comment se passe la fraude fiscale au cœur du paquebot de Bercy qui vogue sous pavillon de complaisance, qui vont décrypter ce qui se passe au Touquet, par exemple. On a travaillé pour faire le chapitre sur le Touquet, pour avoir des informations qui ne sont pas des scoops concernant Emmanuel Macron, mais qui nous permettent de comprendre véritablement son insertion dans une station balnéaire typiquement bourgeoise.
Plus généralement, vous avez travaillé donc sur les mécanismes de reproduction de la bourgeoisie et puis la fabrication donc des dominants en France. Comment du coup fonctionne l'oligarchie d'élite qui entoure Macron et comment on peut dire que se perpétue un tel entre-soi ?
Alors c'est justement l'entre-soi qui permet la reproduction de la classe dominante, dans la mesure où ce sont les membres de cette caste se retrouvent tout le temps ensemble et coupés des autres. Alors ils se retrouvent ensemble dans les quartiers résidentiels de l'Ouest parisien, à Lyon dans des quartiers spécifiques, à Bordeaux dans des quartiers spécifiques, et cette ségrégation, cet entre-soi résidentiel est redoublée par un entre-soi social dont la condensation de l'excellence se situe dans les cercles, que ce soit le cercle de l'Union Interalliée, le Travelers Club, l'Automobile Club à Paris ou le cercle de l'Union à Bordeaux. Enfin, chaque ville a son cercle. Les enfants ont leur propre cercle, ça s'appelle les rallyes. C'est une véritable instance de socialisation qui vient doubler la famille et l'école. Et ils se retrouvent entre eux dans les conseils d'administration des grandes entreprises industrielles et bancaires. Et par exemple, c'est bien parce que l'entre-soi est total dans les comités de rémunération que les dirigeants d'entreprise, comme Carlos Ghosn et les autres, peuvent se voir attribuer des rémunérations totalement fantasques, enfin totalement démentes. Et vous voyez, précisément chez Renault, où l'État a 16% du capital et donc il y a des ouvriers qui sont représentants des salariés au conseil d'administration, ils peuvent aller dans toutes les commissions du conseil d'administration, mais ils sont interdits dans la commission de rémunération.
D'accord. Et du coup, l'oligarchie qui entoure Macron, elle se perpétue aussi ?
C'est-à-dire qu'il se donne les moyens de la reproduction de génération en génération. Alors, il livre, il donne en pâture aux classes moyennes et aux classes populaires l'idée du ruissellement, la théorie du ruissellement, alors qu'en réalité, eux mettent en place des systèmes qui empêchent tout ruissellement. Et cette mise en place, elle a même une dimension historique, puisque c'est en créant des dynasties familiales, c'est-à-dire en inscrivant la transmission des patrimoines les plus importants dans le temps long des générations, des dynasties familiales, qu'ils s'assurent que l'argent et les pouvoirs qui vont avec resteront dans la même confrérie des grandes familles. Et je vais même vous dire que, à part avoir beaucoup d'argent, l'autre condition pour rentrer dans les ghettos du Gotha, c'est précisément d'inscrire dès le départ, dès la première génération, comme l'a fait Bernard Arnault, d'inscrire les grandes fortunes qui aujourd'hui se construisent massivement sur la spéculation financière et le luxe, de les inscrire dans la poursuite, dans la transmission aux générations suivantes.
Dans le livre, vous l'expliquez assez bien, mais dans quelle mesure Macron est-il, alors contrairement à ce qu'il dit, mais il est un pur produit de la formation politique française. Comment on en est-il arrivé là ?
Alors, je dirais que c'est un pur produit du système capitaliste français, hein, parce que c'est pas la politique ne peut pas être isolée aujourd'hui du monde de la presse, du monde de l'économie et de la finance. Hein, ça forme un tout systémique. Et Emmanuel Macron, alors bien sûr, il se défend en disant « Je suis né dans la petite bourgeoisie d'Amiens ». Mais voilà, ben c'est intéressant qu'il le dise. Simplement après, quand nous, on a reconstruit tout son parcours en essayant à chaque étape de sa scolarisation au lycée Louis-le-Grand à Paris, puis ensuite à l'ENA, ses deux tentatives ratées pour rentrer à Normale Sup, mais surtout l'ENA, donc là où il est sorti dans le corps de l'inspection des finances et où tout de suite il a été... comme on dit, repéré, parce que son aura et son intelligence sont telles que les plus grands de ce monde le repèrent, alors qu'en réalité, c'est l'ambitieux, c'est celui qui veut vraiment acquérir du pouvoir, qui se glisse dans les interstices des rouages et des roueries de l'oligarchie. Et Macron s'est effectivement beaucoup mobilisé pour cela, il a réussi. Et donc, c'est un pur produit du système qui a très bien compris qu'aujourd'hui, le système capitaliste est rentré dans une nouvelle phase de son développement, ce qu'on appelle le néolibéralisme, ce moment où la finance prend le pouvoir sur tous les domaines de l'activité économique et sociale, dont la politique. C'est le moment où la classe dominante arrive à s'installer au sommet de l'État pour le piller et défendre exclusivement ses intérêts. La synthèse des intérêts de l'oligarchie, ça veut dire qu'il n'y a plus de conflit d'intérêts, qu'il n'y a plus d'intérêt général.
Toujours dans cette idée d'oligarchie, mais est-ce qu'on peut dire que les médias sont un instrument de maintien de cette oligarchie ?
Les médias sont partie prenante de cette oligarchie, puisque vous savez bien que 10 milliardaires possèdent en France 90% des grands médias. C'est quelque chose qui n'est pas du tout rentable. Sur le plan financier, vous pouvez comprendre que si Bolloré, Dassault et autres Arnault investissent comme ça dans les médias, c'est parce que la manipulation idéologique, les escroqueries linguistiques, la propagande tout simplement, est absolument nécessaire dans la soumission des peuples aux intérêts de l'oligarchie.
Alors, dans le livre, vous avez reconstruit des trajectoires de l'entourage de Macron. Comment vous avez procédé pour faire des liens et pour reconstruire ces trajectoires-ci?
Ça, c'est le travail de deux moines bénédictins tous les jours. C'est-à-dire qu'on lit beaucoup la presse, on lit beaucoup de livres. Et chaque fois, on s'efforce de prendre des notes, on fait des dossiers, on ouvre des cartons. Et puis, ben, comment vous dire, à un moment, tout se relie. C'est-à-dire qu'on a bien suivi le précepte de Bourdieu d'une sociologie basée sur la recherche du relationnel et pas sur le substantialisme. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de tisser tous les fils de la toile d'araignée que constitue l'oligarchie au-dessus de nos têtes.
Macron, qui est pourtant issu d'une longue descendance politique et qui a réussi à se créer un entourage politique, il a néanmoins, pendant la campagne, réussi à se forger une image médiatique de renouveau et d'invention. Comment vous l'expliquez ?
Ben c'est que on a consacré un chapitre dans notre livre « Une créature médiatique ». Quand on analyse les choses, comme le fait l'association Acrimed, tout ce qui se passe dans la presse autour d'un personnage, qu'on compte le nombre de couvertures qu'il a eues, comment on parle de son couple atypique, comment on vante ses mérites incroyables, son empathie, son intelligence hors du commun, 3 ordinateurs dans la tête, le type à qui tout réussit. Et tout ça, ça finit par influencer les électeurs, faire croire que... Franchement, c'est une imposture médiatique absolument étonnante. Je pense que c'est du jamais vu ce qui s'est passé avec Macron. Et ce qu'il y a d'incroyable, parce que moi j'habite Bourg-la-Reine, c'est de voir des gens, par exemple dans ma rue, des gens qui ont fait des études supérieures, dans la recherche, dans l'industrie, dans le journalisme, avoir cru à ce storytelling comme des enfants de cœur.
J'aimerais qu'on passe un peu au mouvement des Gilets jaunes et qu'on en discute un peu. Est-ce que leur colère s'est déclenchée surtout à cause des petites phrases de Macron, les petites phrases méprisantes dont vous faites l'inventaire au début du livre ?
Non, elles y ont beaucoup contribué. Mais bien entendu, la révolte des Gilets jaunes, inattendue et assez incroyable, est liée à une violence de classe qui dure depuis longtemps, qui s'est accélérée d'une façon considérable depuis l'arrivée de François Mitterrand en 1981, avec le tournant de la rigueur en 1983. Petit à petit, les Français comprennent qu'on est dans une dictature qui ne dit pas son nom, avec un système de propagande extrêmement bien mis au point, dans un état cotonneux, doucereux, pour que tout soit fait, pour que vous ne vous mettiez pas en colère. Parce que c'est la violence des pauvres qui est le plus redoutable pour les riches dans leur violence à eux. Et le mouvement des Gilets jaunes, pour ça, est très intéressant, parce que tout de suite, si vous voulez, ils ont fait tout ce que redoute l'oligarchie. D'une part, ils ont investi tout de suite les lieux de pouvoir, les Champs-Élysées, l'Élysée. Dès la première manifestation, le 17 novembre, ils se sont dirigés vers l'Élysée. Ça s'est répété de samedi en samedi. La violence contre des biens était ciblée, hein, c'était essentiellement les banques, sans distinction, que ce soit la Société Générale, la BNP Paribas, les slogans, les graffitis, les tags concernaient massivement le chef d'entreprise de la start-up France, Emmanuel Macron. Des slogans qui étaient très classe contre classe.
Alors quand on va en manifestation, il est difficile de ne pas voir les pancartes demandant le rétablissement de l'ISF. Ces mesures qui avantagent les riches ont-elles amorcé le mouvement des Gilets jaunes ?
Je dirais que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de classe, c'est-à-dire un mouvement multirelationnel, un mouvement systémique de classe, où on ne peut pas dire que ce soit la hausse de la taxe sur le carburant qui soit le moment décisif de cette révolte. C'est ça qui a peut-être mis l'étincelle, qui a mis le feu aux poudres. Mais en réalité, leurs revendications sont absolument variées. Et plus le mouvement dure, plus, on sent que c'est véritablement un mouvement de classe populaire, et moyenne. Les intérêts de ces deux classes face à la violence des riches sont convergents. Et là, on voit bien que ils se battent contre les médias dominants, ils demandent le rétablissement de l'ISF, l'annulation de la flat tax, c'est-à-dire l'impôt forfaitaire sur les revenus du capital, ce qui est absolument incroyable. Je rappelle que les revenus du capital sont désormais imposés de manière forfaitaire à 12,8%, alors que la première tranche d'imposition pour les salaires des travailleurs est à 14%. Donc le cadeau, là, est en milliards et en milliards d'euros pour les plus riches. C'est aussi une conscience écologique. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi une conscience du tiers-monde. Pour ce que j'ai vu, hein, ils ne parlent pas de l'immigration comme on en parle dans les médias dominants. Ils parlent du pillage de l'Afrique. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils connaissent la violence des politiques d'ajustement structurel du FMI, de la Banque mondiale. Ce qui m'a étonnée, c'est le fait qu'ils refusent les enjeux institutionnels des corps intermédiaires que sont les syndicats et les partis politiques. Ils savent que la violence de classe a atteint un tel niveau qu'on n'est plus du tout au niveau des enjeux institutionnels et des petits avantages ridicules qui sont là pour que vous vous calmiez. Et donc, voilà. Et ça, alors, on ne sait pas du tout si ça va donner le meilleur ou le pire. Je fais ce que je peux pour communiquer avec eux pour que leur mouvement aille dans le sens qui m'intéresse, c'est-à-dire un anticapitalisme, une destruction d'une civilisation industrielle qui est en train de tuer la planète et l'humanité.
Dernière question, mais est-ce qu'on peut dire que l'organisation très peu hiérarchique des Gilets jaunes, ils s'organisent très peu de façon hiérarchique, est-ce que ça dévoile un peu une idée de ce refus de l'autorité de Macron, parce qu'il a du coup un exercice du pouvoir très autoritaire, et est-ce que l'absence de hiérarchie serait liée avec cette idée d'autorité?
Ce mouvement massif qui concerne toute la France, comme jamais c'est arrivé dans notre histoire depuis longtemps, ne joue pas le jeu institutionnel de la politique politicienne française, du cumul des mandats, des dirigeants de gauche qui font en fait toute leur carrière en politique et puis qui prennent des discours aux accents radicaux, mais en réalité peut-être pour refaire un nouveau François Mitterrand, vous voyez. On a été trahis plus d'une fois, pourquoi ne le serait-on pas une autre fois? Les Gilets jaunes, ils veulent construire un nouveau mouvement, se reconstruire d'abord eux-mêmes. Chaque rond-point est un peu un apprentissage de la démocratie directe. Donc on respecte la parole de l'autre, les responsabilités tournent, c'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un qui va être le porte-parole du rond-point, qui ira éventuellement à la télévision ou à la radio pour exprimer, et puis après, il rendra son mandat au bout d'un mois ou deux, et puis il passera à la gestion matérielle des barbecues, du campement, quoi. Tout se passe comme ça. Alors c'est très chronophage pour eux, moi je suis totalement admirative de la patience qu'ils ont, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont déterminés, ils le disent tout le temps, ne lâchera pas, ça durera peut-être des années, mais de toute façon, ne reviendra pas en arrière. Pour la première fois, j'ai l'impression de sentir des êtres humains qui ont conscience de la gravité de la situation que nous traversons actuellement avec le dérèglement climatique qui vient aggraver toutes les inégalités et qui vient surtout menacer à très court terme la planète et l'humanité. Il faut vraiment une solidarité de classe, comme font les riches. Ils sont solidaires entre eux. Alors eux, ils sont moins nombreux et ils sont riches. Du coup, ils peuvent s'entraider. Mais nous, on doit pouvoir s'entraider autrement, dans le respect mutuel et face à la gravité de la situation, mettre de côté les enjeux personnels qui nous pourrissent la vie.
Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre, Le président des ultra-riches, a paru aux éditions Zone en janvier dernier.
Guillaume, est-ce que vous m'entendez là? Vous me recevez?
Oui, Tristan, une place de la Bastille, Noir de Monde, en ce 14 juillet 1789.
Radio Parleur.
La prise de la Bastille,
c'était sur Radio Parleur aussi.
Et oui, on était à l'écoute de Radio Parleur, pardon, sur Radio Canu, puisque tout ce qu'ils font est libre de droit et peut être rediffusé. On les remercie pour ce petit reportage, cette petite interview de Monique Pinson. Et on va passer tout de suite, pour rester dans le thème des Gilets jaunes, à la lecture d'un appel pour monter sur Paris ce 16 mars et prendre la rue à Paris, qui est paru sur le média en ligne ACTA.
La journée du 16 mars sera décisive pour le mouvement des Gilets jaunes. Cette date marque la fin d'un grand débat qui s'est révélé sans surprise être une mascarade de haut vol. À vrai dire, le débat a toujours été une arme contre-insurrectionnelle aux mains de pouvoirs chancelants, faite pour semer la division, gagner du temps et essouffler une révolte. Cette fois-ci, le débat a pris des allures de campagne électorale déguisée où le président, tout à sa passion du monologue narcissique, n'a cessé d'ignorer les revendications des Gilets jaunes. Ses ministres n'ont pas manqué l'occasion de les calomnier, espérant venir à bout de ce soulèvement qui n'en finit pas. Mais ils ont oublié une chose. Comme le disait un mur parisien de l'acte 12, on ne veut pas débattre, on veut décider.
Face à cette opération de propagande, les Gilets jaunes se sont organisés, multipliant les appels sur Internet, les déploiements de banderoles autour d'un même mot d'ordre, celui de l'ultimatum, et d'une méthode, celle des débuts, remontée à Paris, plus précisément dans l'ouest parisien, apporter la conflictualité au cœur des lieux de pouvoir.
Matraquage médiatique, interpellation de masse, menace de tir à balles réelles, mutilation, accusation d'antisémitisme, enfumage pseudo-démocratique, tout a été tenté pour asphyxier le mouvement, le décrédibiliser, l'écraser. Et pourtant, les Gilets jaunes sont encore là, toujours debout, principalement grâce à leur refus de la négociation, à leur refus de se laisser enfermer dans les cadres qui, depuis des décennies, condamnent les contestations sociales à l'impuissance.
Tout le monde a pu observer, si le gouvernement a cédé quelques miettes, c'est sous la pression du rapport de force imposé par les quatre premiers actes. On le sait depuis 68, le pouvoir ne cède que pour garantir sa survie, que lorsqu'il se sent véritablement menacé dans sa subsistance même. S'il ne cède plus rien depuis décembre, c'est parce qu'il n'a plus peur. Pour autant, plus autant. Il faut donc revenir aux bases, ouvrir de nouveaux espaces au mouvement. Refusons les parcours déclarés, redevenons offensifs et imprévisibles, nous aurons que ce que nous saurons prendre.
La rue algérienne nous montre la voie. Même les gouvernements en apparence les plus indéboulonnables sont balayés par la force d'un peuple qui se soulève.
Le 16 mars est déjà une importante journée de mobilisation. D'une part, il y a, à l'appel d'organisations antiracistes, la marche des solidarités contre les violences policières et le racisme d'État, qui, tout en gardant son autonomie, affirme sa solidarité avec les Gilets jaunes. Du collectif de défense des jeunes du Mantois à Éric Drouet, en passant par le comité Adama, tous ont rappelé que les brutalités commises contre les manifestants depuis le début du mouvement trouvent leurs origines dans la gestion policière raciste du prolétariat des périphéries urbaines. La main de l'État est toujours la même, qui frappe, éborgne ou tue. S'unir contre la répression, nouer des alliances pour en finir avec le système qui le rend possible, s'impose donc comme une nécessité.
D'autre part, il y a la marche du siècle pour le climat, afin de mettre en accusation les États et le capitalisme global, premier responsable du désordre en cours. Là encore, les Gilets jaunes ont rappelé qu'on ne saurait disjoindre le combat écologique et transformation sociale. Celles et ceux qui prétendent sauver la planète sans remettre en cause l'économie de marché, celles et ceux qui soutiennent que l'écologie est encore soluble dans le libéralisme ne trompent plus personne. Ils et elles se couvrent de ridicule. Le vernis idéologique et les slogans opportunistes dont se gargarisent nos gouvernants masquent mal le fait que, loin de prendre efficacement en charge l'urgence climatique, ils en sont les principaux fourvoyeurs.
Tout concourt à faire de Paris ce 16 mars un grand terrain de lutte. Samedi ne sera pas un baroud d'honneur ni un dernier coup d'éclat, mais le début d'un printemps plein de promesses. L'acte 18 doit être la première étape d'une nouvelle séquence. Reprendre l'initiative pour se donner les moyens de la victoire.
Le 16 mars, envahissons Paris.
Et on retourne à Lyon, bien sûr. On va vous rediffuser ce petit reportage qu'on n'a pas réussi à vous diffuser tout à l'heure pour des problèmes techniques. Un reportage donc sur la lutte des avocats cette semaine à Lyon contre les systèmes de vidéoconférence dans le cas des demandes d'asile.
Bonjour, on est au tribunal administratif et il y avait un rassemblement demandé par les avocats. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel était ce rassemblement ?
Oui, alors c'est un rassemblement des avocats et des justiciables et des associations contre l'instauration automatique et obligatoire de la visio-audience en matière d'asile. Il y a une loi qui a été votée le 10 septembre 2018. C'est la loi Collomb sur l'immigration et l'asile, qui réforme le droit d'asile et qui permet à la Cour nationale du droit d'asile d'instaurer dans certains ressorts la visio-audience de manière obligatoire et automatique sans demander le consentement du demandeur d'asile. Ce qui veut dire concrètement que, à partir depuis le 1er janvier 2019, dans les ressorts du tribunal administratif de Lyon et de Nancy, donc pour Lyon ça concerne les départements du Rhône, de l'Ain, de l'Ardèche et de la Loire, tous les demandeurs d'asile qui résident dans ces départements passeront en visio-audience pour leur demande d'asile.
C'est quoi les limites de la vidéo-audience?
Enfin, alors, vous vous êtes compte? Oui, alors on est compte parce qu'on considère que c'est un contentieux dans lequel l'intime conviction du juge est particulièrement primordiale. Ce sont des personnes qui ont souvent subi de graves violences physiques et psychologiques. Et ça nous paraît insensé, inhumain, de demander à ces personnes d'exprimer et de raconter toute leur violence à travers un écran. On a aussi la crainte que c'est une manière d'accélérer le rendu des jugements. Il va y avoir des rôles, c'est-à-dire des jours où il y aura entre 10 à 15 dossiers par jour. Et vous aurez un juge ou trois juges à Montreuil qui statueront derrière un écran et qui auront tout le loisir d'arrêter l'entretien lorsqu'ils en auront assez. Et c'est ce pourquoi nous contestons la visio-audience.
Et vous, vous proposiez d'autres alternatives?
Oui. En fait, la loi permet plusieurs possibilités, permet donc malheureusement la visio-audience, mais permet aussi d'organiser des audiences foraines, c'est-à-dire des audiences délocalisées. Il y aurait des juges. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour du droit d'asile est nationale. Il n'y a qu'une seule cour en France, elle est à Montreuil. Et ce qui permettrait à des juges de venir durant une semaine, deux semaines, par mois, à Lyon. Les locaux du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel de Lyon peuvent tout à fait les accueillir et d'organiser des audiences physiques en présence des juges pour les demandeurs d'asile qui résident dans la région lyonnaise.
Et donc, c'est en test actuellement donc, sur le barreau de Nancy, sur le barreau de Lyon.
Oui.
Et comment est-ce que vous vous mobilisez?
Alors, ce qui était indiqué, c'était que les visio-audiences commenceraient à partir du 1er janvier 2019. Aujourd'hui, on pensait qu'il y aurait une première visio-audience, mais toutes les affaires sont renvoyées jusqu'au 25 mars. Je pense que la contestation ralentit aussi l'instauration de cette visio-audience. On sait que les salles sont prête. Mais voilà, face à la contestation, je pense que la Cour, il va pas à pas.
Et vous savez si, du coup, sur le barreau de Nancy, il y en a déjà qui ont eu lieu ?
Demain. D'accord. Demain, c'est prévu pour Nancy. Alors là, on vient d'apprendre que toutes les affaires seront renvoyées à Lyon. Peut-être que les affaires seront aussi renvoyées pour Nancy. Mais je rajoute qu'à Lyon, il y a une contestation qui est très forte, et notamment de l'Ordre des avocats, qui a voté plusieurs motions. Une motion indiquant qu'ils ne donneront pas de liste à l'aide juridictionnelle, enfin de liste des avocats intervenant à l'aide juridictionnelle. Donc en fait, la Cour est aussi un peu bloquée. Et le barreau de Lyon a voté une motion de grève et s'insurge contre la visio-audience. Donc il y a un mouvement très fort en fait, de contestation de la part de tous les avocats du barreau de Lyon. Et maintenant, ça monte aussi au niveau national. Il y a plusieurs barreaux de France qui s'insurgent contre, enfin qui manifestent leur opposition à la visio-audience. Il y a le Conseil national des barreaux, donc même les instances au niveau national des avocats manifestent aussi leur opposition. Donc il y a un vrai mouvement de contestation.
Et j'ai vu que l'Ordre des médecins aussi,
oui,
avait pris position.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant, il y a eu une tentative de réforme il y a quelques années sur l'hospitalisation sous contrainte, où l'idée était d'instaurer également la visio-audience pour les personnes hospitalisés sous contrainte, et il y a une vraie mobilisation des médecins en disant mais ce sont des gens qui vont mal, on ne peut pas leur demander d'expliquer leur mal-être face à un écran. Et la mobilisation des médecins a eu telle que le projet a été abandonné. Et aujourd'hui, les médecins qui sont spécialisés en asile, il y a plusieurs, notamment le MEDA à Lyon, Primo Levi, le COMED à Paris, au Kremlin-Bicêtre, qui rencontrent beaucoup de demandeurs d'asile, indique que ce n'est pas adapté. On ne peut pas demander à des personnes torturées de raconter leurs sévices à travers un écran.
Et alors, si je ne me trompe pas, la CNDA, on n'est pas obligé d'être accompagné d'un avocat?
Non.
Du coup, comment ça se passe pour justement les demandeurs d'asile qui sont convoqués à Lyon pour une visio-audience et qui n'est pas accompagné d'un avocat? Comment est-ce que là, vous pouvez justement empêcher ou bloquer les audiences?
Alors après, chacun est aussi... Chacun est maître de sa décision. On ne va pas bloquer un demandeur d'asile s'il veut passer en visio. Mais là, ce matin, il y avait deux personnes qui étaient convoquées sans avocat. L'un s'est présenté, qui n'avait pas été prévenu que l'affaire avait été renvoyée, et en fait n'était pas au courant. Les personnes ils n'ont pas d'avocat, donc en fait ils voient sur une convocation qu'ils sont convoqués à Lyon. Je ne suis même pas sûre qu'il y a écrit visio-audience en fait sur la convocation, et même si c'est écrit, ce sont des personnes qui ne parlent pas forcément bien français et qui n'ont pas forcément conscience en fait de l'implication, enfin des conséquences d'une visio-audience sur leur dossier.
J'ai trouvé de drôles de rumeurs sur le gaz de schiste. Il paraît que ça pourrait contaminer les autres sources, que ça tuerait les cultures aussi. Certains ont dit qu'ils ont pu mettre le feu à leur eau courante. On parle aussi d'un cas de cancer. Oh, Steve, ça a l'air vilain, non?
Attention, on va en arriver à des extrémités. Il y a des dépôts qui vont se mettre à flamber. Il ne faudra pas demander d'où ça vient.
Il nous faut plus de gaz.
Et oui, il faut plus de gaz à qui ? À la France, parce que la France avait interdit l'exploitation du gaz de schiste sur son propre territoire. Et du coup, ben forcément, les personnes qui étaient contre le gaz de schiste pensaient que c'était gagné. Eh ben non, cacher la carotte, elle revient au galop par derrière, parce que la France... importe du gaz de schiste en provenance d'où ? Des États-Unis. Et oui, cette source d'énergie très controversée en raison des impacts environnementaux. Et oui, donc. Ah pardon, je rigole, mais c'est pas drôle du tout le gaz de schiste, en fait. Je suis désolé.
Quand tu caches la carotte, elle revient au galop. Comme dit le proverbe, c'est pour ça.
J'ai l'impression d'être aux grosses têtes, c'est horrible. Je suis désolé. Et du coup. Pardon auditrice ou auditeur de Radio Canu, on va revenir sur le gaz de schiste du coup, parce que la France va commencer à importer du gaz de schiste.
On est désolé, on n'arrive plus à parler, en plus on n'a plus de reportage à diffuser. Donc si un auditeur ou une auditrice pouvait nous appeler pour raconter un truc qu'on passe à l'antenne.
Et oui, du coup les importations ont commencé à l'automne 2018, selon les États-Unis justement, parce que du coup la France elle ne voulait rien dire, et surtout les filiales en fait d'Engie qui du coup importe ce gaz de schiste là, qui du coup a pu dire... que effectivement il y a eu que quand Bastamag, du coup c'est un article de Bastamag que je reprends là, que quand Bastamag l'a contacté, et ben du coup c'est un filiale de LNG qui s'appelle LNG explique que le gaz naturel américain du coup est importé en Europe depuis 2017 et directement en France depuis fin 2018, donc c'est vraiment tout neuf. Mais par ailleurs en fait cette entreprise veut pas donner le nom des importateurs et le détail exact des cargaisons qui sont importées, comme si c'était en invoquant le secret commercial du coup face à ça. Et du coup, et ben en fait, pourquoi ça arrive ça en fait ? Parce qu'en fait, dans pas mal de pays, l'exploitation du gaz de schiste a été interdite, alors même qu'aux États-Unis, et ben c'est un pays qui avant était importateur de gaz de schiste.
Bon, attendez, je vais essayer de finir sa rubrique, je sais pas où il en est. Bon, les États-Unis avant étaient un pays importateur de gaz de schiste et quoi ?
Ah bah oui.
Et quoi?
Et bah ouais, parce qu'à un moment, ils avaient tellement importé, ils se sont dit, ça suffit, on va produire. Et en fait, ils ont tellement produit, les petits rigolos, bah du coup, qu'en fait, ils en avaient trop surproduit. Du coup, ils en avaient trop, et du coup, ils se sont dit, bon, on va le refiler aux autres. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que nous qui soyons, qui subissions les conséquences écologiques de la production de gaz de schiste. Et donc, du coup, bah, il y a eu un certain nombre de plusieurs, enfin, en fait, il y a plusieurs dizaines de gazéoducs et de terminaux méthaniers qui ont été construits tout le long du golfe du Mexique et de la façade atlantique des États-Unis, et dont certaines ont été financées en fait par des banques françaises, donc par exemple la Société Générale. Et il y a un certain nombre de contestations face à ces nouvelles infrastructures, parce que ça a des impacts locaux liés à la fracturation, du coup en fait à l'exploitation du gaz de schiste, et du coup ça contamine à la fois l'eau, ça crée des séismes, ça pollue l'air et compagnie. Et ce gaz en fait, alors même qu'il est souvent présenté par les industriels comme une source d'énergie plus propre que le pétrole ou le charbon, et donc du coup plutôt bénéfique en fait à la transition énergétique. Et alors en réalité, si on tient compte de l'ensemble de la filière et notamment des émissions fugitives de méthane, qui a un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2, ce gaz est tout aussi nuisible pour le climat que les autres hydrocarbures, voire davantage en fait. Et donc de ce point de vue, en fait, bah, l'arrivée massive de gaz américain en France et en Europe n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça, le gaz de schiste a encore de longues années devant lui.
Effectivement, c'était pas très drôle comme histoire quand même.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et l'agenda, du coup, on vous rappelle, parce qu'on a lu l'appel tout à l'heure, que demain, c'est une journée de lutte contre les violences policières avec des manifestations à Lyon. Du coup, les manifestations, ce sera à partir de 13h place Guichard avec une arrivée à 14h place Bellecour dans l'idée de rejoindre les cortèges de Gilets jaunes.
Et du coup, dans la continuité de cette manifestation, donc il y a une soirée de soutien aux familles des victimes. Donc ça aura lieu, donc voilà, donc c'est les familles des victimes qui vous convient à une soirée donc à partir de 19h à l'atelier des canulars afin de se retrouver après la manifestation donc qui aura lieu à 13h et pour prolonger les rencontres et échanges autour d'un verre et d'un repas. Donc voilà, donc ça se passera à 19h à l'atelier des canulars.
Mais lundi soir, il y aura un rassemblement devant l'hôtel de la métropole 20 rue du Lac à Lyon, appelé par un certain nombre de collectifs en faveur d'une vraie protection de l'enfance pour les mineurs étrangers isolés. Et bien pourquoi ? Parce que en fait, l'accueil de des mineurs étrangers a été externalisé à Forum, notamment pour la mise à l'abri et l'évaluation de la minorité et de l'isolement de ces enfants. Et du coup, en fait, alors même que c'était une mission du département du Rhône ou de la métropole de Lyon, eh ben, c'est maintenant Forum qui va devoir, du coup, quelque chose plutôt adapté pour les adultes, qui va devoir évaluer à la fois la minorité des mineurs isolés et aussi effectuer leur mise à l'abri. Et notamment aussi, bah, du coup, dans le cadre de cet accueil par Forum, et en fait c'est des ouvertures à un prix de journée qui est inférieur à 60 à 70% à celui qui est habituellement alloué dans le sein de la protection de l'enfance, mais ça a aussi en fait là, pour conséquence l'exclusion de nombreux jeunes qui sont laissés ou remis à la rue et puis surtout qui subissent une suspicion institutionnalisée, et puis une protection à deux vitesses en fait avec des dispositifs low cost, la dégradation des conditions d'accueil des mineurs étrangers et des conditions de travail des travailleurs sociaux. Et donc du coup, et ben c'est pour ça qu'il y a un rassemblement devant la métropole de Lyon, 20 rue du Lac, à 18h lundi soir.
Et on peut rappeler aussi dans les événements permanents, dans les choses qui se passent chaque semaine à Lyon, il y a bien sûr le lundi soir la permanence juridique de soutien aux sans-papiers qui a lieu à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, ouvert à tous et à toutes, qui se tient de 18h30 à 20h.
Alors, je crois que c'est le même jour. Donc c'est à partir de 19h. Donc il y a Graine d'Anard qui vous convie à une présentation par Aurélien Roulant de son livre consacré à Kata Austin, paysanne, anarchiste et féministe. Cette présentation sera suivie d'un débat. Donc ça va se passer du coup à 19h, donc le mardi, au bar Les Clameurs.
Et dans le cadre du festival Les Écrans du Doc, il y aura une rencontre depuis Mediapart dont on parlera par exemple de l'agriculture en Argentine, de la philosophie, de la transition démocratique en Espagne, etc. etc. Et tout ça, c'est au cinéma Toboggan.
Le mercredi 20 mars, on pourrait vous parler d'une autre activité régulière qui est l'Amicale du Combat Libre qui organise chaque mercredi des cours de boxe à 17h30 et 19h30. Mais on voulait vous parler d'un livre qui sera présenté à la Griffe, qui est le livre « Racisme et violence policière au Brésil, un polar » avec une rencontre avec l'auteur Molika. Et donc ça aura lieu à 19h.
Et ensuite, donc à 19h30, il y aura une marche au flambeau, donc en soutien aux grévistes de la faim kurde. Donc c'est une marche qui va partir de la place Bellecour. Donc le but, c'est d'alerter l'opinion publique et les gouvernements européens sur le message que portent depuis plus de 3 mois les grévistes de la faim kurde. Donc voilà, donc ça va être le mercredi donc 20 mars à 19h30, de 19h30 à 22h30.
Et ensuite, le jeudi, il y aura un rendez-vous à 11h devant l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, à 11h. Alors vous aimeriez bien que je vous donne, l'adresse de l'ARS. Et bien dans ma tête, je dirais que c'est à peu près rue Garibaldi, 241, rue Garibaldi exactement, au métro Garibaldi. Et alors pourquoi me direz-vous? Et bien parce que le secteur entier de la psychiatrie sera en grève dans le cadre d'une journée nationale de grève et de lutte à l'appel de nombreux hôpitaux, syndicats, associations, mouvements et partis politiques. Pourquoi cette grève? Et bien parce que ces nombreux syndicats et hôpitaux et associations et compagnies n'acceptent plus les suppressions de postes, les fermetures de structures de soins, l'engorgement des urgences, les délais d'attente inacceptables parce que le secteur est saturé, mais aussi les pressions institutionnelles quotidiennes sur les équipes et les patients et patientes pour libérer des lits coûte que coûte. Et donc si on regarde juste à Lyon par exemple, le Vinatier est en grève reconductible depuis le 4 février 2019 parce qu'après avoir subi 6 millions d'euros d'économies en 3 ans avec des fermetures d'unités et de foyers, des suppressions de postes, et bien la nouvelle direction annonce un nouveau plan d'économie de 10 millions sur 5 ans. À Saint-Cyr au Mont-d'Or, le manque désorganise progressivement, de moins en moins de médecins, des dispositifs qui sont fermés ou mis en sommeil, tant du côté des adultes que celui des enfants. Et enfin à Saint-Jean-de-Dieu, après avoir restructuré et fermé différents services depuis 2 ans et quasi supprimé les postes d'ASH, supprimé le 11e poste infirmier, passant outre l'avis des instances des personnels, eh bien la direction annonce fin février, sans contestation, la fermeture de 11 lits d'accueil et d'orientation. Ceci en plus dans un contexte de suroccupation quasi constante de l'hôpital, avec des couchettes installées dans les services. Et donc du coup, ce rassemblement aura lieu le 21 mars à 11h devant l'ARS 241 rue Garibaldi.
Et jeudi soir quoi? Eh bien bien sûr, vous pourrez venir découvrir ce que c'est l'auto-école buissonnière. L'auto-école buissonnière, pour le dire en quelques mots, c'est un projet d'auto-école pour apprendre à conduire entre potes et passer son permis en dehors des auto-écoles, de leur logique et de leur coût exorbitant. Et ça aura lieu à l'Amicale, parce qu'ils se réunissent tous les 3e jeudi du mois au 31 rue Sébastien Griffe à l'Amicale. Donc ce sera de 18h à 20h pour rencontrer l'auto-école. École buissonnière.
Et ensuite, on vous annonce que du 19 au 24 mars auront lieu les Écrans du Doc. Donc, c'est un festival du documentaire sur des termes aussi variés que la jeunesse, Mediapart, l'agriculture en Argentine, la philosophie, la transition démocratique en Espagne, etc. etc. Et donc, voilà, du 19 au 24 mars.
Et le 21 mars, toujours 21 mars encore, il y a un rendez-vous à la Lutine à partir de 19h pour un atelier d'autodéfense mentale. En fait, la question est de ne plus subir la violence, mais d'en parler. Parce que face à la violence du système capitaliste et de ses dérives, nous sommes souvent démunis et nous vivons cela comme des traumatismes. Pour mieux se défendre et se protéger les unes et les autres, le mieux est d'ouvrir la parole.
Ah bon, c'est à moi, mais j'ai l'impression que l'agenda il devient trop long. Alors bon, peut-être ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur un des meilleurs sites du monde, si ce n'est le meilleur site du monde, rebellion.info, en intégralité, en détail, avec des petits mots, des petites images et des petites pages. Et puis sinon, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, on vous laisse avec une superbe émission qui s'appelle Noise Pollution.
Mais on va attendre qu'ils nous filent leur générique.
Mais attendez, mais il n'y a pas un iCab ce soir quand même. Il y a peut-être un iCab.
Non, on est nul en technique, on a tout perdu.
Alors moi,
tout perdu.
Moi, je peux dire c'est quoi le iCab de ce soir quand même ou pas?
Sans générique.
Ah, et bien alors, ça veut dire quoi iCab? Et bien iCab ce soir, ça veut dire All Cops Are Bastards, parce que demain, c'est la journée de lutte contre les violences policières. Ben et voilà. Tout de suite, c'est Noise Pollution.
On a été le premier groupe à être banni.